Chapitre 5. Depuis que Mozac vivait à la Cordille, son esprit, comme le battant d'une campagne trop vieille, divaguait. Le calme, la prospérité, la mollissaient trop. Des carriers de Saint-Flour, grâce à son argent dont Camina de Comté, à vrai dire, héritait une part, comblaient de blocs énormes l'abîme, en même temps que les maçons de Saint-Chély, payés par Madame Gobert, bâtissaient l'école. Mozac se désintéressait des travaux. Il errait, sans but, autour de la Cordille. Son unique plaisir était d'entendre bavarder Césarine et Romain, lesquels s'étaient mariés à la Pentecôte. Il trouvait aussi quelques distractions dans la société du cheminot. Ce vieux semblait s'être fixé pour toujours en Lozère. N'est-ce pas lui qui, cet hiver, après sa rencontre avec Mozac, le lendemain de la tempête, avait, en s'abritant dans la cahute, découvert la fortune du noble? Avec ce trésor, il était parti, très fier, en imaginant des histoires splendides de voyageurs. Mais, au milieu de sa troisième étape, il avait rétrogradé sur le Besson afin de rapporter à Mozac cette richesse qui lui donnait trop de soucis. À cause de cette restitution, le cheminot parut aux gens de la campagne un être providentiel, effrayant, un héros. Lui, tout d'un coup, se réjouit de se voir entouré de considération. Les familles le recherchaient. Il acceptait, moyennant le gîte et la pitance, de travailler un peu, coupant du bois, ravaudant des bottes, faisant même l'office de maître d'école. Ce qui le retenait surtout, c'était Césarine, qu'il rencontrait chaque jour dans les champs ou au hameau. Pour lui, elle chantait, et sa voix pure rendait au cheminot l'âme joyeuse de son passé, la vision de son enfant et de sa patrie. Aujourd'hui, dans le Fournel, il pêchait à la ligne le goujon et la truite, lorsque Mozac, avec son indolence coutumière, frileux sous sa peau de loup, malgré le ciel de juillet, s'approcha. « Eh bien, l'ami, vous voilà donc installé chez nous ?»« Pas pour toujours, je le sens. Cette paix agréable me rappelle trop ma Dordogne, qui ressemble un peu à la Lozère, par ses collines boisées et ses plateaux rocailleux. » Autrefois, je dissipais, en marchant, la nostalgie de mon foyer qui me surprend chaque soir à l'heure du repos et des songes. J'ai voulu m'asseoir enfin, me fixer ici, m'abandonner à l'illusion de reconnaître en Césarine mon enfant que m'a ravi la mort. Et voilà que je deviens inquiet, jaloux des vieux de mon âge, dans leur maison, au milieu de leurs enfants. Cela me donne des envies de retourner en Dordogne, et comme je sais parfaitement que je n'y retrouverai plus mon bien, mon cœur crèverait. J'ai faim de retourner chez moi, oui, dans cette patrie dont je croyais avoir perdu le sens, et cependant, j'aurais honte d'y reparaître à cause de ma pauvreté que, avant de m'établir ici, j'ignorais. Le sens de la patrie ne meurt donc jamais dans l'homme d'à présent. Il suffit donc qu'un peu de raison nous revienne pour que retentisse en nous l'appel du sol qui nous porta le premier jour, du ciel qui nous ouvrit les yeux, de la maison qui nous imprégna de l'âme de nos ascendants. Les mains à plat sur l'herbe, le cheminot regarda couler l'eau bruissante qui ne sait pas plus que l'homme pour sa destinée où l'entraîne la pente des coteaux. L'autre, à l'unisson, gémit ses plaintes. « Vous avez des excuses dans votre adversité. Je n'en ai point, moi, qui n'ose même plus penser à mon château. Il fallait vous appuyer, autrefois, sur votre passé comme sur un bâton, parcourir chaque jour cette terre où les plus pauvres respectaient votre nom. L'esprit des bois, des vallées et des montagnes vous aurait commandé le désir d'aimer qui est dans les plantes, dans les rochers. Malheur à l'homme qui, par orgueil, s'isole des hommes. » Je vous le dis, moi qui souffre d'être seul. C'est vrai, je suis comme écrasé sous une ruine, je n'ai plus de goût à vivre, je ne sais plus discerner la beauté dans les choses, ni dans les créatures, la jeunesse, le plaisir. Pourtant, j'ai essayé, en offrant mon argent à mes semblables, de recouvrer le sentiment de l'humanité. L'argent, ricana le cheminot, c'est du sang, des muscles, c'est le corps qu'il faut à la terre. Et si vous voulez lui offrir un véritable sacrifice, jetez-vous du haut des 13 vents dans l'abîme. Ça préservera les autres du malheur. Oh oh ! Bon, vous revoilà bien avec vos méfiances. » Et le cheminot riait. Mozac s'éloigna sans répondre. Les confessions passionnées du cheminot, ses exhortations farouches, provoquaient dans sa tête une rumeur de glas qui tantôt se dispersait, tantôt se rapprochait. Afin de s'apaiser, il monta vers le petit bois où Césarine et Romain fouissaient un champ nouveau. Le soleil, aidé par la brise, lustrait comme les poils d'une bête les prés du Val. Sur le chemin scintillait le mica des roches. « Tiens !» s'écria Césarine, « voici notre rentier !»« Piochez avec nous, monsieur Mozac !»«
Je ne sais point, Romain !»«
Alors, regardez-nous !»« C'est que ça finit par me fatiguer !» Donc, vous autres, vous ne vous ennuyez jamais ?
Jamais. Nous irions comme ça, en creusant nos sillons, au bout du monde.
Ah, on nous méprise, nous, les paysans, et tout sort de la terre, le bois, le charbon, le pain.
Césarine regardait, en souriant, son homme à qui la joie inspirait des paroles, dont elle entendait aussi quelquefois la poésie frémir, comme des ailes, au fond de son cœur. Mozac s'était sauvé. À la cordille, il se planta devant Caminade, qui distribuait aux bêtes leurs pâtés. Tant qu'il restait là, Caminade, pour ne pas déconcerter le noble, ne disait rien.
« Caminade, demanda-t-il en fronçant les sourcils, est-ce que vous ne vous ennuyez jamais ?»«
Je n'ai pas le temps. Et vous ? Allez donc vous distraire parmi vos ouvriers. »
« Non. Et dites-moi, est-ce qu'il faudra vraiment un baptême de sang sur les rocs de l'abîme ?»
Peut-être, on jettera un mouton.
Hein, c'est drôle. Toujours les superstitions. Ils sont fous, ces gens-là. Pourtant, ils ne s'ennuient jamais.
Mozac marchait d'un pas monotone, rassurant de ses mains décharnées sa peau de loup sur les épaules. Gonzague, au milieu du pâturage, sur le sommet de la colline, gardait son troupeau. Mozac, tout droit, le joignit.
Tu ne t'ennuies jamais, Gonzague?
Pourquoi ? Les bêtes me connaissent. Nous nous amusons ensemble à courir, à sauter.
Diable, c'est drôle. Qu'ont-ils dans la cervelle ? Ils parlent avec les bêtes comme les sorciers.
D'ailleurs, il n'y a de sorciers que dans les campagnes.
Mozac, ses poings derrière le dos, descendait à Ambialé. Il marchait tout courbé pour éviter de rencontrer, dès son premier regard, là-bas, au loin, le château où l'appelait son âme. Les Michel, au pied de la colline, bêchaient. Ursule, qui se tournait souvent vers la cordille, aperçut le noble sur la route blanche, où l'on n'avait plus vu, depuis l'hiver, sa haute silhouette.
« Que faites-vous dans nos parages ? » lui cria-t-elle.
« Je me promène. Et vous autres, vous ne vous ennuyez jamais ?»«
De quoi il nous parle ?» s'emporta Michel, qui riait à plein gosier, en se tapant les genoux.
« Le pauvre !» gémit Ursule. « Ah, monsieur Mozac, montez au 13 vents. On y place une grande pierre pour le monument. Vous aiderez un peu. »«
Oui, oui.
Alors, vous ne vous ennuyez pas de travailler pour les autres ?»«
Nous ennuyer ? Pourquoi faire ? Est-ce que nous ne travaillons pas aussi pour nous ?»
Mozac poursuivit sa morne promenade en répétant.
« C'est drôle, ils sont fous. Et les bêtes, qui sait si elles s'ennuient ?»
Mais non, Dieu ne les a pas doués d'intelligence.
Sous le château, il eut honte de ses péchés d'égoïsme et de paresse. Puis l'orgueil le ranima. Il craignit la charité des maîtres nouveaux comme une injure. Et rapide, tournant à droite, il gravit la côte sinueuse des 13 vents. Là-haut, les Gobert surveillaient les ouvriers. Ils se félicitaient une fois encore de leur bonne idée lorsqu'ils virent arriver Mozac, qui toujours courbait le dos. Ils s'empressèrent pour l'accueillir. Mozac, d'abord stupéfait, recula. Ces bourgeois, par hasard, n'affectaient-ils pas de l'humilier devant les hommes de son pays ? Mais il vit, sur les joues pâles d'Hélène, sur ses mains tendues, une lumière de grâce et de bonté. Sur le visage frais du juge, une sagesse souriante. Lui, Mozac, était couvert de poussière, vêtu d'hiver, à la façon des sauvages d'Aubrac. La fatigue de plusieurs siècles semblait ronger sa figure de feu, d'où jaillissaient les yeux énormes parmi la barbe broussailleuse.
« Pourquoi ne venez-vous plus nous voir ?» lui dit Gobert.
« Je vous gênerai, je ferai de l'ombre. »
« Allons donc, vous savez que je ne crois ni aux préjugés, ni aux privilèges. » Mais enfin, si vous êtes heureux à la cordille, auprès des jeunes époux...
« Monsieur Mozac sait bien aussi, ajouta Hélène non sans une malice, que le château lui sera un asile en cas de détresse. cette pensée doit le réconforter. Mozac, à ces mots, frémit de tout son corps. Moi, ce qui me console, c'est que ma maison usera encore beaucoup de race. Pourtant, on ne vous a pas offensé? Peut-être, je vous envie. Il s'en alla, dodelinant de la tête avec dépit. Sur le neuf parapet de la route, il s'assit, se pencha. Le vertige de l'abîme l'attirait. Seulement, toujours, il avait peur de mourir. À quoi bon se sacrifier à ses semblables? Sa vie lui était plus précieuse que celle de tout son pays, aux superstitions duquel il s'efforçait de ne pas croire. Il s'écartait au milieu de la route, se disposait à descendre vers le ruisseau, lorsqu'il vit un cheval avancer au trot. C'était, sur un corse noir et doux, Jean-Marie qui, depuis un mois, à l'émerveillement des placides gardiens de troupeaux, parcourait la Lozère. Viril déjà, ses cheveux noirs en boucle sur les épaules, la cravache en main, les jambières de cuir serrant ses culottes de velours, il s'enivrait de la clarté et du vent de l'espace. Et, s'imprégnant du visage rugueux, de l'âme silencieuse de la patrie, de sa naissance et de son éducation, il savait qu'il retrouverait toujours les Michel en quelque ferme qu'il voulût bientôt se réfugier. Il comprenait maintenant les rivalités de sa mère et d'Ursule. S'il chérissait sa mère, il avait pour sa maman un amour conscient, raisonné, fait de reconnaissance et d'estime, et qu'augmentait sa compassion envers des êtres de misère injuste et sans merci. D'autre part, partageant un peu, à son âge, les superstitions des simples, il redoutait le noble, peut-être à cause de la mort de Florent, qui lui restait mystérieuse. Et devant cet homme, planté sur son passage, le cheval fit un écart brusque. « Oh oh, tu vas vite, mon garçon !» s'écria Mozac. « Pardonnez-moi, » dit Jean-Marie. « Bah, écrase-moi, je ne sers à rien. Mais quelle bête superbe ! Elle n'est jamais venue à la cordille !» La bête tressaillit de méchante humeur sous les caresses de Mozac. Jean-Marie voulut lui plaire, se le rendre favorable. « Vous ne venez pas souvent au château ?»« Non, je m'y retrouverai et j'aurai honte en me comparant à celui que j'étais autrefois. Toi, sois heureux dans mon domaine. Après tout, tu ne me dois rien, tu es celui de l'avenir. Au moins, ce pays t'aura vu naître, ce pays est tien, je puis te pardonner. » Mozac frappa de sa canne si fort que la bête apeurée se sauva. Et lui-même, d'un pas plus léger, redescendit par la route en zigzag dans les prairies du Besson. Le soir, il ne rentra pas à la cordille. Romain, Césarine, le cherchèrent vainement aux alentours, dans l'ombre. Se serait-il tué? Mais pourquoi? N'était-il pas heureux, choyé? Mon Dieu, en quelle montagne s'était-il égaré cette nuit? Caminade ne cessa de pleurer au coin du feu en disant que sa maison était toujours maudite, qu'elle ne voulait plus abriter des hommes et que Romain devait la démolir ou s'en aller plus loin avec Césarine. Les ouvriers, ce matin, sur les 13 vents, ôtaient leurs blouses et, pour commencer l'ouvrage, les posaient sur le parapet de la route lorsqu'ils aperçurent, au-dessous d'eux, au plein d'un des blocs énormes accumulés dans l'abîme, un homme étendu, la face au ciel. Dans la clarté brumeuse, ils reconnurent. C'était Mozac. Ils gémirent à la pensée d'un crime, crièrent d'épouvante. Mais pourtant, qui donc aurait osé tuer le noble, d'ailleurs dépourvu d'argent? C'est lui-même qui avait commis le sacrilège de souiller, en cherchant la mort, cette jetée de pierre. La mort n'avait pas accepté l'offrande de son être, car seulement évanoui, il reposait, les bras en croix, sur un large rocher. Ainsi, une fois encore, le noble s'était trompé. Il avait cru faire le bien, donner à son pays son corps et son âme. On lui imputait à crime ce sacrifice. Les ouvriers se dispersèrent, soit pour répandre l'alarme, soit pour assembler des secours. Le monde arriva bientôt en un grand désarroi. Quelques ouvriers eurent beaucoup de peine, reliés qu'ils étaient par des cordes, à remonter sur la route le corps de Mozac. En tombant, celui-ci s'était blessé à la nuque et le sang de la blessure avait coulé partout, noirci sa face ridée. On l'aspergea de sel et de vinaigre, on lui frappa sur les mains. Il ouvrit les yeux une seconde. Ce fut tout, il retomba inerte. En ma qualité de magistrat, dit Gobert, je dois procéder à une enquête. D'ailleurs, je suis sûr que personne n'a attenté à la vie de M. Mauzac. Lui-même, quand il pourra parler, confirmera mes présomptions. » Les paysans le regardaient docilement. Il ajouta de sa voix grave : « Nous avons, Madame Gobert et moi, un devoir à remplir. C'est à nous de recevoir le malade dans notre château, dans cette maison qu'il considère encore comme sienne. » « C'est affreux !» gémit Hélène, qui, redoutant chez elle le retour de l'âme d'autrefois, aurait voulu ne montrer à son fils que des images de bonheur et de beauté. Les hommes avaient déposé Mauzac sur une civière. Ils l'emportèrent au château parmi un concours de peuple qui admirait la charité des Gobert. On lui donna la chambre d'où l'on domine le plateau jusqu'à la margerie de Violette à l'Orient. Bientôt, Mauzac ouvrit les yeux. Et près d'Ursule, qui s'était offerte à soigner le blessé, il se tourna vers la lumière souriante. Au milieu de la chambre blanche, parfumée comme un bois au printemps, il se sentit revivre. De jour en jour, il remonta doucement à la vie, à la joie de revoir le ciel et la campagne. Les bavardages de Jean-Marie l'amusaient, ainsi que les chansons de Césarine, qui venait au château le dimanche avec Romain. Sa première douleur fut de ne pouvoir, au milieu du peuple de Lozère, assister à l'inauguration des travaux récents des 13 vents. Quelle fête ce jour-là! Toutes les cornemuses, tous les hautbois de Saint-Chély, du Besson, des plus modestes hameaux, jouèrent, comme pour une vaste bourrée, l'ancienne musique qui rappelle, par son ardeur et sa monotonie, l'enivrante mélopée de peuplades sauvages. Au dur soleil d'août, chacun arbora son costume de cérémonie. Les pharaons en blouse bleue, les pharaudes en robe de cotonnade blanchie. C'était de beaux jours de fête après des années de deuil. Le cheminot était venu. Il se reposait seul sur une des marches du monument commémoratif. Le bonheur de ce peuple lui remuait le cœur. Il revoyait, par les yeux de l'âme, sa Dordogne boisée et verte. Dans un rêve, il entendait les gens de sa race rouler comme des ruisseaux vers la fête votive de son village. Et devant cette liesse, le vieil étranger, tout en agitant sa barbe d'une main fiévreuse, grondait « Moi aussi, je veux mourir chez moi. Il faut que je retrouve le chemin de ma maison. » Fin de « Terre natale » de Georges Baume.